18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Protocole sanitaire strict dans les écoles à partir de lundi. Un cas positif égale une classe fermée. C'est ce que doit annoncer le Premier ministre dans un instant.
Les lycéens, eux, retourneront étudier à partir du 3 mai, mais en demi-jauge.
Jean Castex doit également préciser la levée de certaines restrictions, fin des limites de déplacement et peut-être un horizon plus précis pour la réouverture des restaurants, des bars, des commerces et des lieux de culture.
Les infos exclusives d'Europe 1 des débuts de ce journal et on entendra l'impatience des commerçants pour qui il est impératif de rouvrir dès le 10 mai.
Emmanuel Dutheil nous dira également que l'État s'apprête à arrêter progressivement ses aides pour les secteurs non prioritaires, mais que le PGE sera lui accessible jusqu'à la fin de l'année.
Le procès des 18 policiers de la BAC Nord de Marseille, poursuivis pour des vols de drogue ou d'argent, accouche d'une souris. 7 sont relaxés, les 11 autres écopent de peine de prison avec sursis.
Climat, Joe Biden affiche ses ambitions, le monde applaudit le grand retour des États-Unis.
Et puis la saison prochaine, Neymar jouera avec un ballon, Décathlon.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,91% à 6267 points.
La météo avec Anissa Dadi, bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
C'est demain, attention, roulement de tambour, la plus belle journée de la semaine.
Oui, ça y est, c'est demain que c'est prévu avec un soleil généreux qui va briller dans toutes les régions, dans un ciel totalement dégagé. Et en plus de ça, les températures vont grimper. Nous allons dépasser la barre des 25 degrés. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc le grand retour de la conférence de presse du jeudi.
Oui, le grand retour de Jean Castex et de ses trois ministres qui s'apprêtent à répondre aux nombreuses questions que se posent les Français, notamment concernant l'école, à 4 jours de la réouverture des maternelles et des primaires.
Bonsoir Virginie Riva.
Bonsoir.
Alors pour préparer ce retour en classe après 3 semaines d'absence, une réunion a eu lieu cet après-midi au ministère de l'Éducation nationale avec les syndicats et on leur a donc confirmé, Virginie, un protocole sanitaire strict.
Oui, exactement, avec la fermeture des classes dès l'apparition d'un seul cas de Covid. C'est le protocole qui a été testé pendant une semaine avant la fermeture des classes, mais seulement dans les 19 départements qui étaient alors confinés. Mais là, ça serait sur tout le territoire. On sait que cette mesure impliquera forcément de très nombreuses fermetures de classes. Mais pour Guylaine David du SNUIPP, c'est quand même une très bonne chose.
C'est une demande que nous avons et que nous portons auprès du ministre déjà depuis une dizaine de jours parce que ça évitera d'avoir une diffusion dans les autres classes et à l'intérieur même de la classe. Donc ça permet de protéger à la fois les élèves, les personnels et les familles.
Voilà, et le gouvernement se laisse d'ailleurs la possibilité d'en faire le bilan très rapidement pour adapter le protocole. Deuxième information, les lycées passeraient tous en hybride sur tout le territoire. Avant les vacances, c'était uniquement dans les départements confinés. Côté collège, là aussi, passage à l'hybride pour les établissements qui seront dans la liste des départements sous tension, liste qui va être dévoilée par Jean Castex. On ne sait pas encore pour quel niveau, 4e ou 3e. Concernant les tests salivaires, ce ne sera pas 1 million, mais plutôt 600 000 tests proposés par semaine, d'ici 2 semaines pour les écoliers. Et ils seront également étendus aux collégiens. Les autotests, eux, sont réservés au personnel 2 fois par semaine et aux lycéens, à ce stade, 1 fois par semaine. Puisque la Haute Autorité de Santé recommande de les utiliser à partir de 15 ans, ils devraient pouvoir être déployés à partir du 10 mai. Ils seraient à ce stade réalisés au lycée, mais les syndicats ne savent pas s'ils seront faits en classe, sous la supervision d'un enseignant. Eux n'y sont pas favorables.
Merci Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Voilà les déclarations à l'instant de Jean Castex qui nous dit que le pic de la 3e vague semble bien derrière nous. Alors outre l'école, le Premier ministre et ses ministres devraient aussi aborder le volet sanitaire et la levée progressive des restrictions, très attendue évidemment par les Français.
Oui, a priori dès le 3 mai, on devrait de nouveau pouvoir se déplacer partout en France, sans limitation et sans attestation.
Concernant maintenant cet horizon de la mi-mai évoqué par Emmanuel Macron, la réouverture des terrasses, des commerces, des lieux de culture. Là encore, le Premier ministre devrait en dire plus dans quelques instants.
Et nul doute que les restaurateurs, les patrons de bars, les commerçants qui sont actuellement fermés seront particulièrement attentifs à ces annonces. Des commerçants qui plaident pour une réouverture la plus rapide possible. Après le 10 mai, ce sera trop tard, disent-ils. Écoutez Emmanuel Leroc, il est délégué général du Procos, c'est la Fédération des commerces spécialisés.
L'important, c'est de ne pas amputer le mois de mai. Il y a en fin de mois, vous le savez, la fête des mères, qui serait extrêmement compliquée à gérer pour certaines activités si jamais les activités se passaient pas bien, la bijouterie, la parfumerie, etc. Et puis le textile, qui souffre de tout décalage de réouverture, puisque aujourd'hui, on vend des collections d'été. Il faut qu'on puisse les vendre aussi vite que prévu pour se retrouver dans une situation pas plus compliquée que celle de l'année dernière, et il est largement temps de le faire, puisqu'en fait, beaucoup d'entreprises sont même sur une partie de leur stock, sur des stocks qui n'avaient pas été vendus l'an passé. Donc il ne faut pas amener de la difficulté à la difficulté. Donc toutes les activités saisonnières réclament d'ouvrir dans cette première quinzaine de mai et pas plus tard.
Le délégué général du Procos, la Fédération des commerces spécialisés, joint pour Europe 1 par Aurélien Fleurot. Alors on le disait, on n'a toujours pas de date de réouverture pour ces commerçants, malheureusement. En revanche, le ministre de l'économie a fait des annonces aujourd'hui sur le dispositif d'aide pour les entreprises les plus touchées par cette crise, Emmanuel Dutheil.
Oui, actuellement, le montant du salaire des personnes en activité partielle représente 84% du salaire net, le tout en grande partie pris en charge par l'État. 15% du montant incombe aujourd'hui aux entreprises. Mais voilà, pour les secteurs non protégés, donc pour tous ceux qui ne sont pas fermés par décision administrative, eh bien, la contribution de l'État va baisser à partir du mois de juin. Le reste à charge va passer alors de façon progressive sur plusieurs mois à 40% pour les entreprises. Et seulement 72% du salaire sera pris en charge à ce moment-là. Plus largement, le gouvernement réfléchit à la sortie de crise avec cette question à plusieurs milliards d'euros. Quand arrêter les aides sans casser la reprise économique? Et je peux vous dire que cette question donne des sueurs froides à Bercy. Sans activité partielle, sans fonds de solidarité, sans report de charges, des milliers d'entreprises se seraient effondrées. Seule certitude, il va sûrement falloir faire du sur-mesure, dit-on à Bercy. Par exemple, si les terrasses rouvrent, ça ne rend pas viable un restaurant. Si les cinémas rouvrent avec des jauges de fréquentation basse, c'est la même chose. Il faudra donc réussir à lever une partie des aides sans tout couper.
Emmanuel Dutheil, chef du service éco d'Europe 1.
Oui, la dimension économique, on y reviendra avec nos invités tout à l'heure dans le Club des idées à partir de 19h15. Dans l'actualité également ce soir, la récolte de vin dans les vignes françaises sera amputée de 28 à 30%.
Oui, c'est la conséquence évidemment de l'épisode de gel exceptionnel qui a sévi au début du mois. La perte est estimée entre 12 et 15 millions d'hectolitres selon les professionnels.
Le délibéré cet après-midi au procès des policiers de la BAC Nord de Marseille.
Après 9 ans d'instruction, affaires de corruption, vol de drogue ou d'argent, le procureur de l'époque, Jacques Dallest évoquait la gangrène qui aurait gagné ce service de police. Et bien finalement, Stéphane Frangy, aucun de ces policiers n'ira en prison.
Oui, des peines avec sursis seulement allant de 2 mois à 1 an sans inscription au casier judiciaire et un soulagement en conséquence immense pour les 18 prévenus accueillis à la sortie du tribunal par de longs applaudissements et des accolades de leurs proches. Dénouement de 9 ans d'instruction, 9 ans de gâchés selon Virgile Reynaud, un des avocats de la défense.
La montagne, je l'avais dit dès le départ, a couché d'une souris. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a un retour d'expérience à faire. On vient après 9 ans d'instruction. Eux, ils ont souffert pendant 9 ans. Ils ont eu un écho terrible. Donc il y a une charge émotionnelle qui ressort, vous l'avez filmé. Voilà, tout ça, on aurait pu en faire l'économie.
Voilà, la présidente du tribunal reconnaît tout de même dans sa lecture de graves dysfonctionnements à l'époque dans le service de la BAC Nord. Mais tout ceci n'a pas été vain. Nuance Dominique Allegrini, l'avocat d'un des policiers révoqués.
Elle ne se termine pas comme un pétard mouillé parce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Ça a permis de faire un certain nombre de recadrages qui sont utiles. Mais c'est là qu'on a réussi à poser finalement le juste milieu entre le recadrage utile et le déchaînement absurde auquel on avait assisté.
Et au total, 7 relax totales ont été prononcées, mais le parquet conserve la possibilité de faire appel de ce jugement.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille.
Jean Castex annonce saisir le Conseil constitutionnel au sujet de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, définitivement adoptée il y a une semaine.
Oui, parce que le Premier ministre veut lever tout doute, car même si cet article a été réécrit, il est toujours contesté. Article qui a pour ambition affichée, on le rappelle, de protéger les forces de l'ordre en opération, en pénalisant la diffusion malveillante de leur image.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal, quoi de mieux qu'une journée de la Terre pour organiser un sommet sur le climat.
40 dirigeants du monde entier réunis par visioconférence à l'initiative de Joe Biden. Sonia Dridi, on vous retrouve, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Sonia, le président américain cherche clairement à regagner en crédibilité après les années Trump.
Oui, Joe Biden, pressé de tourner la page Trump, veut réparer les pots cassés. Il avait déjà commencé à le faire dès son arrivée au pouvoir en rejoignant l'accord de Paris sur le climat que Donald Trump avait quitté en fanfare. Alors que son prédécesseur était dans le déni, Biden est alarmiste sur la crise climatique. Il a annoncé aujourd'hui une cible plus ambitieuse que prévue pour les États-Unis.
Les États-Unis ont pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Cette décennie est décisive. C'est une décennie pendant laquelle nous devons prendre des décisions pour éviter les pires conséquences de la crise climatique.
Cet objectif double quasiment l'ancien engagement de Washington. Le président français Emmanuel Macron a salué cette annonce. Plusieurs dirigeants ont applaudi le retour de l'Amérique sur le dossier climatique. Les invités à ce sommet ont tenté de faire figure de bon élève. Le président chinois a réaffirmé l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2060, malgré les tensions actuelles avec Washington. De son côté, l'Union européenne est parvenue à un accord juste avant cette réunion sur une réduction d'au moins 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 à Washington, mais manifestement tout cela est encore insuffisant pour la militante Greta Thunberg qui accuse les dirigeants d'ignorer le changement climatique.
La Turquie maintenant qui ouvre une enquête contre le fondateur d'une plateforme d'échange de crypto-monnaies.
Il est soupçonné d'avoir fui à l'étranger avec les avoirs de ses clients. Le scandale avait touché toute l'Europe en 2017. Des œufs contaminés au fipronil. Eh bien, un procès se tenait aujourd'hui en Belgique. Des peines d'un an à quatre ans de prison ont été requises, notamment contre la société qui avait commercialisé un produit de désinfection des fermes avicoles qui contenait cet insecticide pourtant interdit.
Le football, côté business. Avec cette petite nouveauté l'an prochain, le ballon de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sera un ballon Décathlon.
Oui, vous connaissez Kipsta, la marque de Décathlon. Eh bien, elle va en effet équiper les championnats français. Marguerite Lefebvre, c'est un beaucoup de com' qui fait beaucoup parler en tout cas.
Oui, et cette annonce a évidemment provoqué une pluie de commentaires sur les réseaux sociaux. Deux camps s'opposent depuis quelques heures. Il y a tous ceux qui moquent l'image amateur que renvoie Décathlon et son ballon Kipsta, et puis les autres qui, au contraire, ont plutôt hâte de voir ce changement d'équipementier. Ce qui est certain, c'est que c'est clairement un aboutissement pour l'enseigne qui mise depuis quelques années sur ses propres marques, sur ses produits maison, mis au point et perfectionnés par les ingénieurs Décathlon. Au bout de cette stratégie, avec cette montée en gamme, il y a donc l'entrée dans le sport professionnel. Décathlon avait déjà équipé plusieurs équipes, des équipes de foot ou de rugby notamment, mais aujourd'hui, la stratégie est encore plus assumée. En janvier dernier, l'enseigne a signé un contrat avec la NBA aux États-Unis et aujourd'hui, donc, il y a ce partenariat avec la Ligue de football professionnel. C'est une immense vitrine pour Décathlon, dont le chiffre d'affaires est malmené depuis quelques années, et puis pour la Ligue, mais c'est aussi une manière de se rapprocher des fans grâce à la puissance du réseau Décathlon, grâce aux 300 magasins de l'enseigne qui sont implantés en France.
Une précision signée Marguerite Lefebvre.
Voilà, très beaucoup pour Décathlon, à savoir maintenant si le ballon est fabriqué en France ou pas. Ah, merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa Haddadi, une magnifique journée prévue demain, voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Oui, le soleil va briller pour tout le monde demain, sans exception. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà eu une belle journée, surtout sur la moitié nord. Dans le sud, c'était un petit peu plus chaotique, avec d'ailleurs beaucoup de nuages sur les Pyrénées. Et bien demain, tout le monde sera servi. Nous aurons quelques cumulus qui bourgeonnent sur le massif central et les Alpes, mais rien de très inquiétant. Dans le sud, le vent d'OTAN souffle toujours sur le Languedoc et le Roussillon, jusqu'à 70 km/h. Sur les côtes de la Manche, c'est encore le vent d'Est qui reste sensible. Les températures, elles sont fraîches dans le nord, avec des petites gelées sur la Picardie et la Champagne. Partout ailleurs, nous aurons 2 à 12 degrés, 2 à Lille, 5 à Paris et Dunkerque, 9 à Quimper et Bordeaux et 12 à Nice. Et puis alors, sous la veste, vous pouvez mettre un petit t-shirt demain parce qu'il va faire vraiment bon l'après-midi. Avec des températures en hausse, 14 degrés à Boulogne-sur-Mer, 15 à Cherbourg, 17 à Nancy et Belfort, 20 degrés à Paris et Bastia, 22 à Rennes et Lyon, 23 à Brest.
Même température à Paris et Bastia ?
Ouais, c'est dingue. Hein,
je le note dans mon almanach.
Ouais, 20 à Paris et Bastia, 23 à Brest, 25 pour Bordeaux. Et la maximale est prévue dans le sud-ouest.
Suspense.
Avec 26 degrés à Mont-de-Marsan.
Mont-de-Marsan.
Entre autres.
Merci ma chère Anissa, vous revenez nous voir évidemment à 18h30.
À tout à l'heure.
Europe 1, écoutez le monde changer.